Johnny Calhoun.
Waouh, c'est hyper intriguant cette musique. Où est-ce que tu nous emmènes?
Ah, tu vas voir. Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Bienvenue chez toi.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Michael, ta date de naissance?
02-12-73.
La ville où tu as grandi?
Boulogne-Billancourt.
L'endroit préféré de ton enfance?
Le Grand Bornand.
Le nom de ton lycée?
J'en ai fait tellement, si tu savais. Mais on va retenir Notre-Dame de Boulogne.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Coluche.
On passe en stase. Michael, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que tu aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
C'est trop de responsabilité.
Pourquoi?
C'est trop de responsabilité. Mais non, mais c'est parce que c'est la baguette magique ultime. Arrêter le temps, c'est... Après, qu'est-ce que j'en ferais? Est-ce qu'avec... C'est le Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Qu'est-ce que j'en ferais si j'étais capable d'arrêter le temps? Qu'est-ce que j'en ferais de bien pour l'humanité? Est-ce que j'en ferais que des choses bien pour moi et pour mon petit plaisir personnel, et ou est-ce que j'essaierais de servir au plus grand nombre? Et après, tu deviens un instrument, l'instrument de la planète. Donc non, je ne veux pas de super pouvoir. De temps en temps, j'ai envie que le temps s'arrête quand tu vis des moments absolument délicieux, quand tu regardes un coucher de soleil, quand t'es en vacances avec tes enfants, quand tu, voilà, tu bois l'apéro et que t'as un petit vent chaud qui te passe sur la nuque, et voilà, quand t'es amoureux, etc. T'as envie que le temps s'arrête, mais je voudrais pas avoir ce pouvoir. Voilà.
C'est étonnant, t'as tout de suite pensé aux autres avant de penser à toi. Hein.
Bah, parce que quand t'as un pouvoir comme ça, il faut quand même que tu l'utilises pour les autres, non?
Pourquoi pas?
Bah oui. Non, moi j'ai pas envie d'être un dictateur. Hein. Ça me plaît pas des masses, hein, moi, les dictateurs.
Mais des fois, ça fait du bien aussi d'arrêter pour soi, pour te profiter davantage de la vie. On va parler de la comédie Certains l'aiment chauve, qui sort en salle cette semaine. Le synopsis, Zachary, joué par Kev Adams, se fait quitter par sa copine à cause d'une calvitie naissante. Alors que celle-ci gagne du terrain, il appelle à l'aide son oncle Joseph, c'est toi, pour limiter les dégâts. J'ai bien résumé?
Ouais, c'est pas mal. C'est l'histoire d'un gars qui est victime d'une calvitie fulgurante et en même temps qu'il va perdre sa meuf, il va aussi perdre son boulot, il va perdre sa confiance en lui, il va tout perdre. En fait, la perte de cheveux est devenue l'allégorie de la perte de sa vie, quoi. Et puis, il va essayer de lutter avec l'aide de son oncle contre cette calvitie naissante. Et puis, il va évidemment se rendre compte très très vite que le seul chemin, c'est l'acceptation de soi. Telle est la voie. Comme dit le Mandalorien.
Il me semble qu'on est le troisième pays le plus chaud derrière l'Espagne et l'Italie.
Oui.
Est-ce que toi, c'est un sujet qui a pu t'inquiéter par le passé?
Non, pas spécialement. Non, mais bon, moi, j'ai eu beaucoup d'acné, donc ça m'a plus préoccupé. J'ai un gros nez, ça m'a plus préoccupé. J'ai du vitiligo, qui est donc une dépigmentation, la perte de pigments de certaines cellules de la peau. Donc j'ai d'autres trucs dont je dois me soucier avant de me soucier de la calvitie. Ouais. Mais j'ai des golfs, mais je m'en contre tamponne.
Tu vois, on est deux, hein.
Ouais. Mais c'est pas vilain, les golfs, hein. Ça rend le front plus large, ça rend les gens plus intelligents. Non, c'est vrai. Psychologiquement, on pense que plus le front est large, plus la personne est intelligente.
Mais en revanche, c'est une info qui m'a totalement échappé. Tu as du vitiligo?
Ouais.
Ah oui. Rien.
Tu vois, là, ça se voit particulièrement en été. Comme j'en ai sur les mains, un peu. Mais c'est pas grave, hein. C'est juste chiant physiquement, et encore il y en a qui le vivent hyper bien, mais moi c'est très très lent, c'est du vitiligo très très lent, et pareil, je l'ai accepté comme une calvitie, et depuis que je l'ai accepté, en fait, j'ai moins de problèmes avec.
Alors tu vois, c'est la question que j'avais notée. Si ce n'est pas la calvitie qui a pu t'inquiéter, y a-t-il un autre marqueur du temps qui passe qui a pu troubler ta vie?
Oui, en revanche, d'avoir des cheveux blancs, ça me saoule un peu.
Ah, ouais. T'en as pas trop?
Non, ça va. J'ai des poils de barbe blancs. Non, mais ça me saoule un peu. Autant les rides, j'arrive à m'y faire. Je me dis que c'est ma tête. Ah, les cheveux blancs, j'ai pas tellement envie de changer d'apparence tout de suite, quoi. Donc, oui, évidemment qu'on n'a pas envie de vieillir quand on aime la vie. Quand on l'aime pas, on s'en fout, hein. Mais quand on aime la vie, qu'on en profite, qu'on est resté un enfulte comme moi, mi-enfant, mi-adulte, t'as envie de continuer à profiter. T'as envie de te dire que, voilà, t'as 30 ans tout le temps, quoi. Mais c'est pas possible. Mais non. Ou alors, faut pactiser avec le diable et on en a déjà discuté tous les deux et je suis pas d'accord avec certains principes de vie du diable, donc j'ai préféré lui dire non.
De toute façon, j'ai pu remarquer que tu as la tondeuse facile, hein. Tu t'es déjà tondu la tête à plusieurs reprises pour des rôles et pour celui-là d'ailleurs, hein,
ouais,
refuser le maquillage.
Non, mais j'ai pas de problème à me tondre la tête. Je trouve que j'ai un beau crâne. Alors après, le crâne rasé, c'est pas mal. C'est effectivement le temps qui suit qui est un peu compliqué. C'est la repousse. Là, j'en suis sorti. Mais sinon, tu te tapes quand même 2 mois de tête de paillasson. C'est pas terrible.
On va aussi revenir sur la promotion remarquée du film au Festival de Cannes où t'es apparu avec ce faux crâne, cette fois dégarni aux côtés de Kev Adams. Le jour idéal pour rencontrer Tarantino.
Ouais, malheureusement, donc on s'est fait poser des postiches avec Kev. Enfin, c'est du latex, c'est des prothèses en latex, en silicone, ça prend du temps, 4 heures de pose, etc. Pour avoir un peu la tête de Gérard Jugnot, que j'embrasse au passage, à force de dire Gérard Jugnot, faut quand même que je lui dise que il n'est pas la laideur incarnée, mais c'est vrai que ce qu'on appelle Gérard Jugnot, c'est la calvitie des années 80, c'est-à-dire le crâne est chauve, mais il y a des cheveux sur les côtés qui n'ont pas été rasés à la Jason Statham ou à la Zinedine Zidane, quoi. Et c'était ça pour faire un petit coup de promo sur le film, parler du film un petit peu différemment. Et en haut des marches, on est tombé sur Quentin Tarantino, dont je suis méga archi fan, évidemment. Et tu te dis, le jour où tu rencontres ton idole, t'as cette tête-là, c'est quand même extrêmement dommage. C'est dommage parce que pour le coup, ça sert à rien de lui dire que tu le kiffes, ça sert à rien de lui dire si jamais vous avez besoin d'un Français, non, ça sert à rien.
Au moins, t'as eu la petite photo avec lui quand même.
Au moins, on a eu la petite photo.
Mais ouais. Ça a dû être, malgré tout, un échange privilégié.
Je me fous un peu des photos, moi. J'ai pris la photo parce que je trouvais ça rigolo et que je me disais que sur les réseaux sociaux, ce serait marrant. Mais je m'en fous complètement. J'ai très vite compris que les chansons étaient plus belles que ceux qui les chantaient et que ça servait à rien de rencontrer ses idoles. Tu ne vas que de déception en déception. Donc, j'ai pas besoin de faire une photo avec Tom Cruise. J'ai pas besoin de discuter avec lui. Ça me va très bien. Ça me va très bien que ce soit un animal médiatique et un acteur que je regarde dans Mission Impossible. J'ai pas besoin de le rencontrer. C'est sûr que je serais impressionné si je le voyais, mais j'irais pas le voir pour lui demander une photo. J'en ai pas besoin.
Michael, il est temps d'explorer ton passé. Michael Benayoun, pourquoi le Bena a disparu ?
Parce que c'est pas terrible comme nom d'artiste, Michael Benayoun. Tu mets ça sur une affiche, l'affiche elle tombe toute seule, quoi. Donc le Bena a disparu parce que Youn c'est plus sec, c'est plus vif, c'est plus dynamique. Très très vite j'ai fait comprendre à mes parents que je m'en foutais un peu de mon nom de famille et que j'espère que ils ne voyaient aucun problème à ce que je prenne un pseudo. Et aujourd'hui je m'appelle Michael Youn et pour moi je m'appelle Michael Youn.
C'est une initiative personnelle, on te l'a pas fait enlever.
Ça s'est passé à la radio où c'est un directeur d'antenne qui m'a dit que ça marchait pas très très bien Michael Benayoun pour être animateur sur l'antenne, mais je partageais le même sentiment que lui. Après, c'est sûr que si j'avais un peu réfléchi un peu plus longuement, j'aurais choisi un pseudo plus moins compliqué, c'est-à-dire que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je m'appelle Michael Young avec un G à la fin. Si j'avais su, j'aurais choisi un pseudo qui prêtait pas à confusion. Voilà.
Il y a encore des gens qui...
Non, mais je trouvais que c'était pas mal de pas trop changer. C'est-à-dire, tu t'appelles Benayoun, on enlève juste le Bena, bon, ça reste quand même un peu ton nom, quoi. Je suis pas parti sur, je m'appelle pas Gallagher. Mais maintenant, si c'était à refaire, Gallagher, Michael Gallagher, c'est vraiment pas mal, ça, c'est stylé, quoi. Et tout de suite, on accueille Michael Gallagher! Je trouve que ça sonne.
Tu sais, rien n'est jamais trop tard, hein.
Non, mais si.
Il y a des artistes qui ont changé.
Non, maintenant, c'est mort, je peux plus changer de pseudo. C'est comme Kev qui parlait de ses dents, il aime pas ses dents, Kev. Je lui disais, refais-toi faire les dents. Il dit, mais là, c'est mort, maintenant j'ai commencé comme ça. Si je me fais refaire les dents, tout le monde va dire, ah là là, regardez, il y a Kev Adams en Jacob Delafont et tout. Non, c'est pas possible. Non, quand t'as commencé, t'es obligé d'aller au bout. Toi, j'espère que t'avais bien choisi ton pseudo. Hein.
Tom Intégral.
Ben, j'espère que tu le kiffes, hein, parce que il va te coller toute ta vie. Hein.
J'ai essayé de trouver un nom assez neutre, parce que mon nom de famille, Anan, personne ne sait l'écrire.
Avec un H?
Avec un H, A, 2 N, A, N, E.
Oh là.
Et c'était pénible de l'avoir écorché, mal écrit, voire mal prononcé. Et donc j'ai adopté quelque chose d'un peu plus universel.
Et ben, j'espère que tu le kiffes parce que tu vas le garder toute ta vie.
Pour le moment, ça va. Je l'ai depuis plusieurs années. Ça, tout va bien. Des parents qui ne sont pas du tout issus du milieu artistique.
Pas du tout.
Voilà. Papa prof de maths puis psy, maman responsable du personnel. Dans ce cas, comment t'es venue cette sensibilité artistique?
Sans doute parce que je me suis construit en opposition avec des parents qui n'avaient pas spécialement de sensibilité artistique. Même si ma mère a toujours été une boute en train et toujours en train de jouer, de faire des personnages, de faire un peu le spectacle, mais c'est vrai que à la maison on regardait pas beaucoup de films, à la maison on lisait pas beaucoup de livres, on n'allait pas voir d'expos, on était plus intéressé par le JT de 20h, la politique intérieure, la politique française. Je suis pas issu d'une famille extrêmement cultivée, ça veut pas dire que mes parents ne le sont pas, mais en tout cas on n'avait pas la culture très facilement accessible. J'ai écouté les disques de mes parents, si ils écoutaient de la musique quand même, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert effectivement les Pink Floyd, les Beatles, etc. En piquant les 33 tours, à l'époque c'était des vinyles de mon père. C'est comme ça que j'ai découvert aussi Coluche, puisque mes parents l'avaient acheté en vinyle. Mais on n'avait pas la culture très facile. Il n'y avait pas d'accès aujourd'hui, comme tout est simple. On a tout à portée de main avec notre téléphone. C'était pas le cas chez moi. Mes parents m'ont jamais parlé de Flaubert, de Victor Hugo.
D'accord.
Ils m'ont pas parlé de Picasso. Ils m'ont pas parlé de Michel-Ange. Ils m'ont pas parlé de Vivaldi, ni de Beethoven, quoi. Voilà. Il fallait aller te la fabriquer tout seul, ta culture, quoi. Et c'est pareil pour le cinéma. J'ai découvert Stanley Kubrick tout seul. J'ai découvert Francis Ford Coppola tout seul. Mais tant mieux. Ça a forgé quelque chose de très important chez moi. C'est ma curiosité. Et c'est une des principales qualités que j'aime chez l'être humain. C'est la curiosité.
Je vois un peu un lien parce que t'as parlé avec tes parents. C'était plutôt le 20h, des choses un peu plus sérieuses et tout ça. Et t'as fait classe prépa économique et commerciale. On est deux. Je sais pas si t'as fait option scientifique, comme moi.
Non, moi j'ai fait un bac C, et après j'ai fait une prépa HEC.
Moi, ça s'appelait ECS, du coup, donc il y avait 12 heures de maths en plus.
Ouais.
T'en gardes quel souvenir?
C'est très facile pour moi, les études. Vraiment, j'en garde pas un souvenir douloureux. J'avais pas de problème à bachoter, j'avais pas de problème à être bon en cours, même si j'avais beaucoup de problèmes à être extrêmement discipliné. C'était un peu un temps béni, moi, les études. C'était un moment de... complètement déconnecté de la réalité, avec beaucoup d'insouciance, beaucoup de fêtes, beaucoup de copains, beaucoup de copines. Les études n'avaient pas grande importance dans cette histoire. C'était plus ce qui se passait en dehors des cours, mais les cours me posaient pas de problème du tout.
Malgré tout, tu y es arrivé, quoi.
Ouais. Non, mais ça paraît un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas l'image qu'on a de moi, mais j'étais un garçon plutôt brillant. Ouais.
T'as fait la schéma.
Ouais, à l'époque ça s'appelait le CERAM, c'est Subdoconis en fait. Ouais, donc je suis master en management, bac plus 5 en master en management, master in business administration.
Quand même.
Voilà, donc normalement c'est fait pour aller à Wall Street travailler dans la finance ou à Palo Alto travailler dans la new tech. C'était pas du tout fait pour chanter Kourou Koukou, stache tache. Pas du tout.
Ah bah tu vois, tu m'as donné la transition. Bah malgré tout, tu prends des cours de radio et de théâtre.
Ouais.
Et tu présentes les Flash Infos. En matinale.
Ouais, sur Skyrock.
Ouais.
Ouais. Mais j'ai eu du bol parce qu'on était deux au casting. C'était un casting, je m'en souviens. C'était genre au mois d'août. Et j'ai juste été meilleur que l'autre, quoi. On était que deux. Donc c'est. Et puis j'ai toujours beaucoup aimé la radio. Je trouve que c'est un média formidable. C'est un média plus calme, qui cherche moins l'efficacité que tout ce qui est visuel. On a plus le temps de. Il y a plus de nuances en radio. Il y a plus de convivialité, il y a plus de chaleur. Donc, je suis très vite parti sur ce média-là, qui me permettait de pouvoir prendre des cours de théâtre de l'autre côté, tout en mangeant pas des pâtes quand même matin, midi et soir, parce que j'étais payé pour être en radio. Et puis la radio, puis ça a donné le Morning Live, ont été plus vite que de l'autre côté mes envies de théâtre classique sur les planches du théâtre subventionné. Ouais.
Donc, les matinales entre 98 et 2000, une aventure qui s'arrête sur une gifle de Bernard Tapie.
Ouais.
C'était à l'époque, pour redonner le contexte, voilà, c'était une remarque qu'il n'avait pas appréciée. Si vous avez fait de la prison, c'est pas pour rien. C'était au sujet du match truqué en 93, OM Valenciennes.
Ouais.
Au lieu de prendre ta défense, la direction t'a viré. Parce qu'ils t'ont dit, tu vas te présenter tes excuses.
Ouais, j'ai pas voulu présenter mes excuses. Après, je l'ai un peu résumé comme ça. Ça s'est passé de façon un petit peu plus compliquée. C'est comme en plus, j'avais passé un casting pour faire le Morning Live sur Fun TV, Skyrock, concurrent de Fun Radio. Et donc, de Fun TV, il avait mal pris. Donc, tout ça a... En fait, c'est pas que je l'ai un peu résumé. C'est que moi, je l'ai retenu comme ça dans ma tête. Et récemment, le patron de Skyrock m'a dit dis donc, alors on ment ?» J'ai fait « Comment ça, je mens ?» Tu m'as viré après la baffe de Bernard Tapie parce que j'ai pas voulu m'excuser. Non, il m'a dit « Déjà, tu t'es excusé. » Ah bon ? Et ensuite, c'est pas pour ça que je t'ai viré. Je t'ai viré parce que t'avais fait un casting pour Fun TV. Donc, t'as ta mémoire qui est devenue sélective. Je dis « Écoute, Laurent Bounot, oui, certainement, ma mémoire est devenue sélective, mais ça se comprend, c'était quand même il y a 25 ans. Donc oui, j'ai retenu ce que j'ai eu envie de retenir. Oui. »
Je sais après que tu t'es rabiboché avec Bernard Tapie sur le plateau d'Ardisson.
Ouais, enfin, je me suis rabiboché.
J'étais pas. Même plus.
Non, mais lui, il s'en souvenait pas. Il a présenté ses excuses devant les caméras. Tout ça est un jeu de dupes. On va pas se raconter d'histoire. Je connais les enfants de Bernard Tapie, puisque j'ai rencontré sa fille, j'ai rencontré Stéphane, etc. J'ai rien contre eux, mais c'est sûr que j'ai pas pleuré le jour où Bernard Tapie est mort. C'était pas quelqu'un que je portais dans mon cœur. Il a rendu beaucoup de services du côté de Marseille. Il y a des gens qui n'ont juré que par lui. C'était, voilà, selon moi, j'ai eu la preuve que c'était pas quelqu'un de spécialement bienveillant. Après, c'est peut-être qu'une facette de l'homme et que moi, je n'ai vu que celle-là, donc je ne vais pas le juger. Il a rendu beaucoup de gens heureux et rien que pour ça, je le félicite. Je ne sais pas si je suis même sûr et certain que je n'arriverai pas à rendre autant de gens heureux que Bernard a pu rendre, par exemple, en 1993.
Comme tu l'as dit, effectivement, après Sky, c'est Fun, c'est la 6 et c'est le Morning Live avec Vincent Desagna, Benjamin Morgan. Tout le monde se souvient de cette émission culte qui n'a duré même pas 2 ans.
18 mois.
18 mois.
Ouais.
Selon toi, comment as-tu réussi à faire quelque chose d'aussi culte en si peu de temps ?
Bon, j'y ai pas réfléchi. Et puis j'avais une énergie débordante, communicative, un enthousiasme. J'avais envie de rentrer dans ce métier en défonçant la porte et on réfléchissait. À l'époque, il y avait un truc sur Canal+ qui s'appelait le zapping.
Oui.
Et notre objectif, c'était de passer au zapping. On voulait faire des séquences entre guillemets cultes sur une journée. Hein, pour le zapping, en gros, c'était si on a réussi notre journée, on passait au zapping. Il y avait une séquence qui était là-bas. Ça voulait dire que c'était ce qu'il fallait retenir dans la journée de ce qui s'était passé aujourd'hui à la télé française. À l'époque, il y avait 6 chaînes. Il y avait pas encore la TNT. Il y avait pas le satellite. Il y avait pas le câble. Je sais même plus comment on dit maintenant. Il y avait pas les box. Voilà. Il y avait pas tout ça. Donc il y avait à la fois de la spontanéité, puis on avait quand même envie de faire du transgressif. On avait envie de passer au zapping, on avait envie de faire des choses qui sortaient un peu du cadre. Ouais.
Ah, un côté rebelle.
Ouais. Rebelle à la télévision française. Hein. On n'est pas non plus, tu vois. On n'est pas dans les rues avec une Kalachnikov. Hein. Mais oui, c'était un peu punk. Ouais, gentiment punk. Doucettement punk.
Quand ça marche si rapidement avec un rythme de travail aussi intense, parce que voilà, 18 mois, je sais, tu l'avais déjà dit dans plusieurs interviews, c'était des journées, mais de dingue. Est-ce qu'on arrive à pleinement se rendre compte de ce qui se passe autour du succès de l'émission ?
Non, tu te rends compte de rien, tu te rends même pas compte de ce que t'es en train de tourner, tu te rends plus compte de ce que tu proposes. T'es en flux tendu, on faisait 10 heures de direct par semaine, et on était une équipe, de 10-12 personnes, quoi. Donc, on n'était pas assez staffé, on avait même pas de caméra. À la base, c'était mon caméscope à moi. Enfin, c'est pour ça qu'on a explosé en plein vol et qu'on s'est arrêté avant de faire des bêtises. On s'est arrêté avant de faire de la merde. On s'est arrêté avant d'être des parodies de nous-mêmes. On s'est arrêté avant de faire du mal aux gens. On s'est arrêté au bon moment. On s'est arrêté parce que la fatigue commençait à pointer son nez. On commençait à faire du flux et on faisait plus des choses exceptionnelles. Et on a bien fait de s'arrêter parce que je crois que si je serais pas devant toi en ce moment, je sais pas où je serais, mais je pense que je serais devenu quelqu'un que j'aime pas. Voilà.
Ce que je remarque, c'est que quand tu crées des Bratislava Boys, Fatal Bazooka, ce sont des personnages qui traversent l'écran, qui ont une existence propre. Ça me fait un peu penser à Sacha Baron Cohen dans une certaine mesure.
Oui, il y a des passerelles. Hein. Lui aussi, il a fait Borat, on a fait les Bratislava Boys. Il a fait Ali J, j'ai fait Fatal. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais il y en a un des deux qui s'inspire de l'autre. Hein, Sacha ?
Est-ce qu'on peut parler d'alter ego
pour Fatal Bazooka ou... Ouais, complètement. Oui. Fatal aujourd'hui, il me permet d'être d'être le chanteur, la rockstar, la rapstar, que Michael peut pas être. Il me permet d'ailleurs de continuer à avoir un contact avec le public sans avoir à faire du one man show, parce que le one man m'a rendu complètement chèvre. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement absurde à vouloir faire rire une salle et de se retrouver tout seul derrière. T'es en tournée dans toute la France, t'es avec ton régisseur. Voilà, moi j'ai pas du tout aimé la stand-up, quoi. J'ai pas du tout aimé ça.
Ah ouais?
Non. Moi j'aime être avec des gens, j'aime échanger et me retrouver seul sur scène à échanger avec le public. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu absurde, quoi. Donc ça a pas été mon truc.
Ce que je remarque avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu n'aimes pas du tout faire les choses pour les faire, quoi. T'aimes pas tout ce qui est superficiel, t'aimes pas les mondanités, t'aimes pas le superflu.
Tu peux pas me forcer à faire grand chose. Si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être là.
Ah bah ça me fait plaisir.
Voilà, j'ai envie d'être là. Je me force pas à faire de la promo, par exemple. J'en fais parce que j'aime ça ou parce que j'en éprouve le besoin pour moi. Mais c'est très très difficile de me faire faire quelque chose que je veux pas faire. Il y a une personne qui arrive, c'est la mère de mes enfants, et elle va me le payer. Un jour ou l'autre, elle me paiera.
On a beaucoup parlé de cet aspect. On t'a connu comme ça, avec l'humour, avec la comédie, mais rapidement, mine de rien, t'as opéré un virage dramatique à la fin des années 2000 avec Héros notamment. Il y a eu Carbone à traverser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de registre? Est-ce que quelque part t'as eu peur qu'on t'enferme dans un seul rôle?
Pas du tout. Non, mais je viens de là, moi, à la base. Mm-hmm. Je me suis mis à faire de l'humour parce que quand je montais sur les planches et que j'allais jouer du Shakespeare, je faisais plus marrer mes camarades qu'autre chose. Mais à la base, moi, j'adore ça. Je trouve d'ailleurs que c'est plus facile d'émouvoir que de faire rire.
Ouais.
Le plus dur, en fait, c'est de ne pas faire rire quand tu veux faire rire. Et parce que ça se voit immédiatement. Alors que si tu veux émouvoir les gens et que tu n'y arrives pas, puis on dira, c'est pas mon truc, je suis un peu indifférent, etc. Donc le plus dur, c'est vraiment de ne pas réussir à faire rire quand tu veux faire rire. Non, mais c'est que très vite, en fait, moi, je me lasse. Très vite, je me suis lassé de mon univers. J'avais besoin de prendre des vacances de moi-même. Et que ça me va très bien d'aller dans les univers d'autres personnes, que ce soit Olivier Marchal, par exemple, pour Carbone. Je suis content d'aller ailleurs. Je suis curieux. Je crois qu'il faut pas se limiter à une seule chose. Alors après, il y a un clou. C'est toi, quoi. Il faut le planter jusqu'au bout. On n'est pas monolithique, quoi. Tu t'en rends compte quand t'interviews des gens qui sont des humoristes, d'ailleurs, qui sont souvent très tristes dans la vie, parce que justement, la solitude du stand-upper. Mais voilà, on n'est pas que ça, quoi. On n'est pas monolithique.
Eh ben, je rebondis là-dessus, et c'est pour ça que j'avais noté cette question, parce que je trouve que c'est très français quand même de vouloir catégoriser, de vouloir figer les artistes dans un seul et même domaine.
Oui, mais alors regarde, moi je suis vraiment l'exemple que le contraire existe. Mmh. Je fais du drame, je fais de la comédie, je fais des séries qui sont hyper dures à la télé française. J'ai fait une série sur la prostitution d'une adolescente. Je chante des bêtises, je fais un peu ce que je veux, quoi. En fait, il y a pas de cases. Les cases, c'est toi qui te les mets et c'est à toi d'avoir envie de changer de case. Regarde Jean Dujardin, il a fait tellement de choses différentes. Cadmerade, il a fait tellement de choses différentes. Alors c'est sûr que Jacques Audiard va pas m'appeler, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une histoire d'ego. Le même drame, je peux le jouer dans une série sur TF1, ça me pose pas de problème. Évidemment, je préfère être aux Oscars, mais c'est bien quand même.
S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui ?
J'ai encore la chance d'avoir mes deux parents. J'ai perdu des gens, j'aurais aimé leur dire je t'aime une dernière fois, un truc un peu clair, quoi. Voilà, un truc un peu clair avant qu'ils partent. Ma tante, j'aurais aimé lui dire je t'aime, je l'ai pas vue parce qu'elle était malade quand elle est partie. J'ai perdu deux copains aussi, un en particulier. On était fâchés. J'aurais aimé lui dire que c'était pas grave, c'était surtout lui qui était fâché contre moi, mais j'aurais aimé lui dire que je l'aimais et que tout ça est tellement triste. Ouais, voilà, juste faire revenir des gens pour leur dire une dernière fois que je les aime. Pour pas, c'est assez égoïste hein, d'ailleurs. C'est pas pour les soulager eux, c'est pour me soulager moi.
Ouais. Ouais. Tu le dis davantage maintenant, je t'aime.
Je le dis beaucoup. Je le dis beaucoup, je t'aime. J'essaye de le dire au moins une fois par jour. Surtout aux enfants, surtout à la famille, c'est important de dire je t'aime, parce que vous savez que quand vous dites je t'aime à quelqu'un, après il vous dit plus facilement je t'aime aussi. Et c'est gratuit de dire je t'aime, et ça ne communique que des ondes positives. Il y a rien de négatif dedans. Voilà, c'est comme la masturbation. C'est-à-dire, tu peux sincèrement, tu peux te masturber dans ton coin, chez toi. tu fais de mal à personne, tu te fais du bien à toi, c'est gratos. Et il est où le problème? Et je t'aime, c'est encore mieux parce que tu inclus quelqu'un dans cette belle histoire d'amour.
Michael, on a fait le présent, le passé, qu'est-ce qui nous reste?
Il nous reste le futur.
On voyage beaucoup dans le temps dans cette émission. Hein.
C'est très inquiétant quand même cette musique.
C'est moi qui l'ai composée.
Ah ouais?
Ouais.
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, elle te ressemble. Elle est inquiétante.
Ouais, j'ai essayé de faire une émission qui me ressemble. Justement.
Ah bah oui, ça te ressemble.
Pour revenir au film qui est en salle, il y a Kev Adams, il y a Chantal Latsou.
Il y a Ryan Bensetti.
Il y a Ryan Bensetti, mais Kev Adams et Chantal Latsou, tu vas vite les retrouver puisque tu les rejoins à la télé également.
On a commencé hier.
Pour la prochaine saison de Masked Singer.
Ouais. Je suis devenu enquêteur dans Masked Singer. Je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
Ah oui?
Non, c'est une vanne. Non, mais c'est marrant. C'est bizarre. Je me projetais pas du tout comme étant enquêteur à Masked Singer. Et en fait, je me suis très, très vite pris au jeu. C'est très compétitif. Moi, qui ai l'esprit de compétition, c'est très compétitif. On se tire la bourre. On essaye de deviner qui est qui, évidemment. Et on prend beaucoup de plaisir. L'équipe est super, c'est très agréable.
Tiens, le voyage dans le temps, ça me rappelle une série dans laquelle t'as joué. Et la saison 2 arrive bientôt sur TF1, il me semble.
Flashback. Alors, on va déjà la tourner en septembre. Et elle sera diffusée au mois d'avril 2026.
Voilà. J'ai adoré la saison 1, en tout cas. J'ai vraiment aimé. Et justement, à un moment, tu es complètement grimé avec 30 ans de plus. Quand tu t'es vu avec ces 30 ans de plus, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier?
J'ai pensé à mon père, évidemment. Quand je suis vieux, je ressemble à mon père il est né en 1939, donc faites le calcul, il a 86 ans. Il est fatigué. Voilà, je sens que, évidemment, il se rapproche plus de la fin que le début, comme il le dit si bien lui-même. Et on se rend compte qu'on fait partie d'un tout, en fait. C'est des trucs tout cons à dire parce qu'évidemment vous dites bah oui on le sait qu'on fait partie d'un tout et que un jour c'est notre tour. Oui, ça c'est des phrases, mais quand vous en prenez véritablement conscience, quand vous rendez compte que vous êtes vous-même sur la roue, que vous êtes en train de la voir tourner, souvent c'est le fait de perdre quelqu'un qui vous fait dire ah I'm the next, je suis le suivant quoi. Donc quand tu te grimes comme ça en mec de 70 80 piges, tu te dis que tu n'as... Moi, longtemps, j'ai pensé que j'étais immortel. En vrai, hein, je suis pas en train de te faire une vanne. J'ai pensé que j'allais très, 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 très longtemps dans ma vie rester bloqué entre 30 et 35 ans et que la mort, c'était pas quelque chose qui me concernait, que ça concernait que les autres. Je me mentais. Je vais pas vous dire que je me sentais vraiment immortel comme Highlander, mais je pensais que ça ne me concernait pas vraiment. Et c'est que depuis quelques années que j'ai pris conscience que justement je faisais partie d'un tout et que j'allais pas pouvoir y couper, que moi aussi j'allais mourir un jour et que ça allait me faire beaucoup de peine pile le moment avant de mourir. Parce que j'aime bien ça, la vie en fait.
En prendre conscience de ça, ça allège ou ça inquiète davantage?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, parce que on pourrait penser que ça allège parce que tu dis ça y est, t'as compris. Mais non, parce que c'est la stupidité de cette vie, c'est que ce qui la rend belle, c'est qu'elle s'arrête. Elle serait perpétuelle, éternelle, comme Dracula. Elle n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt. Celui qui ne meurt jamais, peut faire ce qu'il veut sans que la vie ait d'emprise sur lui. C'est terrible, c'est une damnation, en fait. Tu peux tuer, tu peux manger tes congénères, tu peux ne profiter de rien, rien ne change. Ça doit être terriblement lassant. Ça doit, d'ailleurs, il n'y a pas de ça doit puisque personne n'est immortel. Mais c'est une damnation et ce qui est très bien décrit chez Bram Stoker, c'est que Dracula veut mourir.
Avant de conclure, parce que j'essaye de faire la synthèse de notre échange, de ce que tu m'as raconté sur un peu la vanité de la vie. Aussi ton rapport à la superficialité, etc. Ma question est la suivante, quel est ton rapport à l'absurde?
On s'entend assez bien. Je m'entends très bien avec l'absurde, et d'ailleurs souvent quand tu t'entends bien avec l'absurde, t'as intérêt à bien t'entendre aussi avec la honte. Donc j'ai très vite pris la honte par les épaules, et je lui ai dit assis-toi à côté de moi, on va passer un bon bout de temps ensemble dans la vie, et tu vas voir qu'on va être copains. J'ai pas tellement peur d'avoir honte. Je suis moins à l'aise avec l'injustice, avec l'humiliation, etc. Mais avec la honte, voilà, on a très vite été proches. Et donc, l'absurde, en fait, c'est la honte tant qu'on te regarde pas. Hein. C'est exactement la même chose.
On arrive à la dernière partie de l'émission. Je demande donc à toutes les personnes qui t'accompagnent de quitter ce studio. Au revoir, Julien.
Le pauvre, il s'est fait jeter, mais comme une vulgaire catin.
L'interrupteur est à ta droite pour ouvrir la porte.
Qu'est-ce que tu vas me demander ?
Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant une minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Michael. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est seul ? Livré à soi-même. Le philosophe disait « Terrible est de vivre seul sous le souffle glacial de sa propre loi. » C'est Nietzsche, dans Also Sprach Zarathustra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est livré à soi-même et qu'on pense d'abord qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut, on se rend très vite compte qu'on se rapproche de l'aliénation. Et qu'en fait, quand on est seul, on devient fou. C'est l'inverse de ce que disait Sartre. Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Non, en fait, les autres, c'est pas du tout l'enfer. Les autres, c'est la vie. Merci à tous.